Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure de retrouver François Nudelmann pour son journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. Léon Vandermeersch, un grand spécialiste de la pensée extrême-orientale, fournit une réponse étonnante à partir de l'écriture chinoise. Son livre s'appelle « Les deux raisons de la pensée chinoise » et il paraît chez Gallimard. Léon Vandermeersch, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur de l'école pratique des hautes études, vous avez dirigé l'école française d'Extrême-Orient. Vous proposez un livre avec cette thèse, en effet, tout à fait étonnante. La profonde différence entre la culture chinoise et la culture occidentale aurait son origine dans une opposition à l'intérieur de la langue entre une pensée, dites-vous, de la divination et une pensée de la croyance religieuse. Alors, est-ce que vous pourriez nous exposer cette thèse ?
Eh bien, je pense que, alors qu'en Occident, la culture a été fondée sur une théologie qui est partie d'une orientation religieuse de la culture occidentale à ses origines. En Chine, et plus exactement dans le monde chinois néolithique, on assiste à non pas la formation d'une religion comme celle s'est faite en Occident, mais on assiste au développement de ce qui est la culture principale dans tous les peuples nomades de l'Asie septentrionale et même de l'Amérique, qui est une culture chamanique. Et dans le chamanisme, il n'y a pas du tout de transformation du surnaturel en religion et en théologie, mais la surnature intervient comme une doublure en quelque sorte de la nature, mais bien sûr une doublure supérieure qui la commande, avec laquelle entrent en contact les gens de notre monde par l'intermédiaire des chamans. Et donc cette culture chamanique, qui est une culture fondée sur la possibilité de passer dans la surnature par le chamanisme, a conduit à transformer le chamanisme en divination. Dans la tradition chinoise d'ailleurs, les devins qui sont signalés dans les plus anciennes sources que nous ayons, celles du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sont donnés comme les héritiers des chamans.
Alors, on en vient à la question de l'écriture, précisément.
Et à partir, oui.
Oui, on est au XIIIe siècle avant notre ère, et vous repérez cette spécificité dans l'écriture idéographique.
C'est ça. Et là, il y a une très profonde différence avec l'Occident, parce que ce qu'on appelle idéographie, en général, en l'appliquant à Sumer, à l'Égypte, à d'autres écritures de ce genre, c'est une écriture qui transcrit la parole, même si elle transcrit la parole d'une façon qui n'est pas phonétique, d'une façon qui n'est pas alphabétique, elle cherche à représenter la première articulation de la langue, c'est-à-dire celle des mots, par des signes qui correspondent chacun à un mot. Mais elle transcrit quand même la langue parlée.
Oui. Et vous expliquez que cette transition ensuite vers l'écriture alphabétique se fait plus rapidement, même si l'écriture sumérienne était précédente à l'écriture chinoise, était antérieure. L'évolution se fait beaucoup plus facilement vers l'écriture alphabétique.
Mais il n'y a pas du tout d'évolution vers l'alphabétisme du côté chinois.
Oui.
Il y a une évolution du côté occidental parce que, justement, c'est une écriture de la parole, ce que les spécialistes préfèrent appeler logographie. Et évidemment, ça n'est pas très économique de représenter chaque mot par un signe distinct, ce qui conduit à représenter les mots par leur deuxième articulation, l'articulation phonétique, et qui conduit à l'écriture alphabétique. En Chine, au contraire, à partir de la divination, ce qui a été inventé, c'est une écriture qui n'est non pas destinée à noter la parole, mais c'est une écriture qui est destinée à noter les symboles avec lesquels seront formalisés les résultats de la divination.
C'est
la raison pour laquelle ça me paraît une idéographie au sens pur, au sens vrai du mot.
Oui, les oracles, oui. Alors, à travers cette raison idéographique, vous défendez l'idée que, au fond, la pensée chinoise est fondée sur la corrélativité et qu'elle est repérable aussi bien dans la cosmologie, dans la médecine, dans la philosophie, la science. Enfin bref, que en quelque sorte cette raison idéographique donne une cohérence plus forte à la pensée chinoise.
Je ne suis pas du tout l'inventeur de, ou le découvreur de cette profonde liaison avec la corrélativité de la pensée chinoise. C'est un point qui a été d'abord mis en relief par Granet et ensuite par de très grands sinologues anglais qui sont Needham et également Graham. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est trouver l'origine et la raison de cette liaison. Et je la trouve dans le fait que, précisément, inventer d'abord pour représenter par symbole la divination se manifestant à l'origine par, pour ce qui est de la divination chinoise en tout cas, par des graphismes qui sont produits au moyen d'une technique très particulière, qui est celle de la scapulomancie, c'est-à-dire par l'application d'un outil de brûlage à des écailles et plus tard, enfin pardon, d'abord à des omoplates de bovidés puis plus tard à des écailles de tortue, de manière à les faire craquer et à faire apparaître des craquelures qui sont des graphismes à travers lesquels les devins cherchent à interpréter l'avenir. Et c'est à partir de là qu'a été, je suppose, en tout cas c'est la thèse que je défends, qu'a été inventée l'idéographie chinoise. Mmh. Et donc il ne s'agit pas du tout de représenter la parole, oui, mais de représenter, disons, des idées, quoi.
Oui, quand on vous lit, Léon Vandermeersch, évidemment, on pense à la contemporanéité et au fait que la Chine est redevenue une grande puissance mondiale. Et vous dites que c'est quand même au prix aujourd'hui de l'éradication d'une part de sa culture, avec justement des effets de simplification à un moment de son écriture. Et vous dites que ça a été sous l'effet de l'occidentalisation ou bien du totalitarisme maoïste. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Vous semblez suggérer que la Chine pourrait renouer un dialogue, en quelque sorte, avec sa tradition.
Je voudrais souligner qu'entre la situation d'aujourd'hui et puis celle qui est à l'origine de la culture chinoise, il y a quand même quelque chose comme 3000 ans. Et 3000 ans qui sont une énorme période de développement d'une culture dont l'arme principale, si je puis dire, c'est la langue, ce que j'appelle la langue graphique, qui est justement issue de l'idéographie. Alors, il y a une première conversion de la langue graphique vers le 8e siècle, lorsque cette langue graphique devient une logographie, ou plus exactement, on extrait de la langue graphique justement une écriture qui est une écriture logographique dans le sens où elle l'est justement dans le Proche-Orient ancien. Et puis, cette situation dure jusqu'à l'époque moderne, et en particulier plus précisément jusqu'au XXe siècle, sauf que la langue écrite continue à durer, mais est doublée par cette écriture de la langue parlée, qui donne naissance à une toute autre littérature. Et là-dessus, la modernisation qui vient de l'Occident s'impose à la Chine, et à ce moment-là, un certain nombre de secousses, je parle de séismes, vont entraîner des ruptures très profondes avec la tradition chinoise ancienne, et à ce moment-là va intervenir donc une révolution dans le mode d'expression écrite des Chinois.
Je vous cite « Pourquoi en Chine n'éclora-t-il pas un socialisme cynisé qui, dans l'humanisme confucéen, l'écologie taoïste, la compassion bouddhique, puiserait autre chose que ce que le marxisme a tiré du judéo-christianisme ? »
Eh bien, je pense qu'en effet, apparaît une période d'occidentalisation effrénée. Peut-être que la Chine est en train de retrouver les racines de sa propre culture, et donc qu'il pourrait y avoir la découverte d'une autre forme de civilisation, qui, bien sûr, unit ce qui est l'apport de l'Occident avec la tradition chinoise.
Merci Léon Vandermeersch. Je rappelle le titre de votre livre, Les deux raisons de la pensée chinoise, paru chez Gallimard. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.